Bonjour et bienvenue à chacun, si jamais il reste plein de places devant aussi, mais bon. Ce matin, nous nous retrouvons au village pour la suite des cultes de l'été. Alors bienvenue à ceux qui viennent de la paroisse de Mérin ou d'un peu plus loin, Rodemandement, etc. Bienvenue aux habitués de Mérin, de Mérin Village. Bienvenue à ceux qui sont de passage, toujours les Saillants et d'autres. Pour ceux qui se demandent ce qu'ils font là, je souhaite également une bienvenue particulière. Et c'est au nom de toute l'équipe, Domenico qui m'accompagne, Maurice pour la prédication, mais également l'équipe Louange et tous les différents intervenants de l'ombre. Donc au nom de toute l'équipe qui participe à la mise en place de ce culte, que je vous souhaite la bienvenue. Mais avant tout, c'est le Dieu puissant. Créateur, le Dieu au-delà de toute chose, mais qui s'est incarné, qui a vécu au milieu des hommes et qui vient parfois se révéler par un doux murmure au fond de nos cœurs. Ce doux murmure qui nous appelle par notre prénom, c'est ce Dieu qui nous accueille ce matin. Alors qu'ensemble, nous puissions répondre à son appel, que nous puissions célébrer ce culte, proclamer ses louanges, lui rendre hommage, écouter sa parole, nous laisser transformer pour être toujours plus à son image. Et je vous invite à prier. Seigneur, tu nous invites à nous rassembler en ton nom. Merci de nous accueillir ce matin. Comme tu le fais, pour nos frères et sœurs qui se rassemblent également ici ou au loin. Nous te remettons ceux qui ne peuvent pas se rassembler pour différentes raisons. Et Seigneur, nous t'apportons nos craintes, ce qui nous pèse. Rends-nous disponibles devant toi, dans ce temps particulier que nous te consacrons. Sois dans mes oreilles et ma façon d'écouter, soit dans mes yeux et ma façon de regarder, soit dans ma bouche et ma façon de parler, soit dans mon cœur et dans ma façon d'aimer. Oui Seigneur, que tu nous conduises dans ta louange, que tu renouvelles notre intelligence et que tu transformes nos cœurs. Amen. Alors dans nos cultes de l'été, on continue au travers de l'évangile de Luc, à nous intéresser aux pauvres et aux riches. S'il y a des pauvres, c'est qu'il y a des riches. Et le thème du jour est un gérant avisé, dans quoi investissons-nous ? Ah, toute une question. Maurice nous apportera la prédication. Nous aurons un temps de prière, nous prendrons aussi la communion ensemble. Après la louange, il y aura la possibilité pour les enfants aussi d'avoir quelques activités en bas. Mais que l'on soit pauvre ou riche, en argent, en amour, en esprit, avec un petit E, ou en esprit avec un Saint-Esprit, un grand E et un grand S pour saint, je vous propose simplement de nous tourner vers l'Éternel maintenant, pour chanter ses louanges, car c'est lui qui est notre trésor. Je laisse la place à l'équipe.
Je ne peux pas parler beaucoup plus fort. Hein. Bienvenue, ça me fait plaisir d'être là. C'est vrai que là, je vais vous raconter une petite histoire, ce qui s'est passé il y a 3 semaines, puis ce sera là par rapport aux 3 chants qu'on va chanter. Il y a 3 semaines de ça, en vendredi, comme ça tout le monde le sait, je me suis fait opérer lundi, il y a 3 semaines, je me suis fait opérer d'appendicite. Donc c'est pas le top toujours maintenant. Et, après ça, en fait, Le vendredi, j'avais vraiment mal, mais j'ai eu pas du tout de symptômes. Je me levais parce qu'il y en a qui ne voient pas, je pense. Et puis, tous ces symptômes que normalement on dit de l'appendicite, ben, je ne les ai pas eus. Puis c'est vrai que j'en ai un petit peu mal, mais sans plus.
Un vendredi soir, j'ai dit à Rebecca, je crois qu'il faut que je téléphone aux urgences parce que. Ouais, j'ai mal, puis je me suis dit, moi aussi, je serais rassuré. Normalement, quand je téléphone aux urgences, c'est qu'il y a vraiment un truc, parce qu'autrement, moi, les douleurs, je les connais, puis je peux passer vraiment au-delà, quoi. Et le vendredi soir, je me suis dit, bon, allez, je téléphone. Et ils me disent, ouais, bon, il y a beaucoup de monde, voilà, quoi. Je me suis dit, bon, il y a trop de monde, je n'ai pas envie d'attendre 3 heures ou 4 heures aux urgences. Alors, je suis allé le lendemain. Et en fait, bon, j'ai passé 5 heures de temps là-bas. Et en fait, ils n'ont rien trouvé. Donc, c'était assez intéressant parce qu'on fait des radios, prise de sang, bon, bref, la totale, et puis ils n'avaient rien. Alors, chouette, 5 heures de temps là-bas pour me renvoyer à la maison, et puis en me disant quand même qu'il fallait. Ouais, ils m'ont quand même dit qu'il fallait que je revienne un lundi pour faire un scanner. Et puis, bon, ben, j'ai fait un peu l'expérience d'une femme qui allait accoucher, j'ai fait un ultrason aussi, donc échographie, pardon. Donc, c'était assez intéressant, en vue que voilà. Et bon, bref, ça n'a rien donné, donc ils m'ont quand même, pour finir, fait un scanner, et puis tout d'un coup, ben, y a le chirurgien qui arrive, puis qui me dit, bon, il faut opérer d'urgence, c'était bien une appendice. Donc c'était joyeux. Surtout que, ouais, je laissais mon travail, comme j'étais censé retourner au travail une heure après, et que mon patron est en vacances, et c'est moi qui devais tout gérer. Ben, mon équipe, ben, la totale, quoi, les clients et tout. Je dis youpi! Alors voilà, bon, ben, tout s'est déroulé, je me suis fait opérer. Mes collègues, super sympas, ben, ils ont tout géré. Et, voilà. Mais moi, en tout ça, j'étais super stressé parce que ben, justement, je laissais mes collègues, je laissais des clients, ben, mon patron qui est en vacances, qui, ben, j'ai quand même dû l'appeler et puis il était tout en souci. Mais ce qui était génial, c'est que. Au bout d'un moment, ben, j'ai pu faire confiance et puis me dire, ben, j'ai pu aussi surtout remettre à Dieu en fait, tous ces soucis que j'avais parce que j'étais vraiment panique. Vraiment, après l'opération, j'étais vraiment HS. Ben, déjà, suite à l'opération et tout, mais déjà aussi dans la tête. Ça... Ouais, il y a plein de trucs qui se passaient par rapport à mon travail et tout. Ouais, j'étais vraiment mal. Et j'ai ressenti quand même une paix en fait, aussi intérieure en me disant ben, voilà, c'est aussi un temps pour toi pour te reposer. Et puis voilà, dans le sens, la fidélité de Dieu est toujours présente, son amour. Et ben, je l'exerce encore pendant ces 3 semaines parce que c'est vrai que ben, je ne fais rien. Et c'est super sympa quand je suis hyperactif en plus. Alors c'est un peu flippant, on va dire, de rien faire. Alors voilà. Je voulais juste qu'on puisse prendre ces 3 chants qui sont vraiment où on accueille le Seigneur ce matin, qu'on puisse ouvrir ses portes. J'aime bien ce chant, marchons ensemble, parce que l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Donc on est ensemble ce matin pour louer le Seigneur et aussi pour sa fidélité et son amour. Alors, je vous invite à vous lever et puis on va pouvoir chanter ces 3 chants. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvre les portes.
Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
ouvrons les portes.
Ouvrons les portes au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Marchons ensemble.
Marchons ensemble,
l'ennemi
tremble,
Dieu
est avec nous,
chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie,
laissons jaillir un chant de victoire,
Hosanna.
Qui pourra taire
Notre prière.
Dieu est avec nous.
Jamais sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie. Wouhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna! Hosanna, Hosanna!
Dansons devant lui,
rempli de sa vie.
Dieu est avec nous.
Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna.
Tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, bienvenue dans nos cœurs. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le jour. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que je gère.
vu la délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Sa bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que je délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Amen.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Nous allons continuer avec l'écoute de la parole. Les enfants, Denise, voilà, si vous voulez continuer le culte avec Denise, elle vous a préparé quelque chose qui aura lieu en bas. Alors c'est à vous de voir. Ça va, tranquille? Ok, qu'il soit béni aussi dans ce moment ensemble. Alors, on va lire le texte de la prédication qui est dans Luc 16. On lit dans la version de la Tob, les versets 1 à 13. Puis Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Il le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. Le gérant se dit alors en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance ? Bêcher ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » Celui-ci répondit, « 100 jarres d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » Celui-ci répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, et écrit 80. Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur, parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière.
Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui vous est étranger, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.
Nous prions. Seigneur, merci d'avoir conduit Maurice dans sa préparation, que tu le conduises encore et l'inspire dans ce temps de partage, mais surtout que tu ouvres nos oreilles, nos cœurs et nos intelligences à ta parole. Amen.
Frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue de la part du Seigneur à chacune et chacun. Je suis heureux de vivre cet avant-dernier culte de la série des 8 de cet été avec nos deux communautés réunies ainsi qu'avec les visiteurs de ce jour pour le partage de la parole et du pain que nous vivrons. Dimanche prochain, c'est Sylvain Dupertuis qui terminera la série en nous montrant le chemin du bonheur. Oui, il y en a un, et nous le verrons. Voyons aujourd'hui la parabole du gestionnaire, non pas hospitalisé, mais avisé. Elle est adressée par Luc à Théophile, mais aussi à des destinataires plus larges dont nous faisons tous partie. Cette parabole est une exclusivité de Luc et fait partie de ce que l'on peut appelé le bien propre de l'auteur, en d'autres termes, on la trouve uniquement dans l'évangile de Luc et pas dans les autres. Elle est l'une des seules qui ait mis les auditeurs de Jésus, les exégètes et les chrétiens à travers les âges devant l'embarras, avec toujours une même question. Pourquoi et comment Jésus peut-il prendre en exemple un tel homme ? Et je me suis tapé pas mal de commentaires, et c'est intéressant de voir qu'on dit une chose et son contraire, et qu'on a toutes les options. J'en ai prises certaines, elles n'engagent que moi, que Dieu nous conduise. Autre question évoquée avec Joël et Domenico lors de la préparation de ce culte, le gestionnaire est-il finalement honnête ou malhonnête? Qui sont, au verset 9, les amis que l'on doit se faire? Et le mammon de l'injustice, c'est quoi? Vous vous êtes peut-être vous-même aussi dit, comment ça? Jésus fait l'éloge d'un homme malhonnête. Soyons attentifs, et je le dis d'emblée, ce n'est pas de la malhonnêteté de cet homme que Jésus fait l'éloge, mais de son habileté. Jésus fait l'éloge de cet homme qui est sur le point de se faire licencier pour faute grave. Il gaspillait les biens de son maître et sa réputation avec. Et cet homme, face à la crise qui lui arrive, réfléchit. Que vais-je faire? Ah, je sais ce que je vais faire pour qu'une fois licencié, je trouve des gens pour m'accueillir. Et voilà toute l'habileté de cet homme. Il profite de son préavis de licenciement pour se servir, encore une fois, de son pouvoir de gérant. Il se fait des amis pour son intérêt personnel. Il pense à demain. Ce gérant trompeur prépare son avenir pour lui. Cet homme est très fort. L'usage était que le gérant n'avait pas de salaire, mais il prenait une commission, un intérêt, sur le prêt des biens de son maître. Il faisait une écriture de ce que le maître prêtait dans la comptabilité du maître, par exemple 80 jars, et il ajoutait sa commission, par exemple 20, par une deuxième écriture dans la comptabilité de l'emprunteur, soit 20 plus 80, 100. Et il encaissait les 20. Mais ce gérant-là a exagéré. On a entendu 50, 100. Et encore, il y a d'autres méfaits, puisqu'il est question de dilapider. Il a été trop gourmand. Il aimait l'argent. Les débiteurs se sont plaints auprès de son maître, et c'est sans doute ce qui lui est reproché parmi d'autres choses. Menacé de licenciement, il réfléchit, change de stratégie et renonce à sa commission pour se faire des amis. Les débiteurs sont gagnants, donc lui a compris qu'il a besoin des autres pour vivre. Donc il va les servir pour son propre intérêt, pas par altruisme, mais enfin, il y a quand même une démarche. Les débiteurs sont donc gagnants, ils payent moins, ils sont contents. Le maître est gagnant, car sa réputation de bon juif qui prête sans intérêt fait de lui quelqu'un de respecté. Et le gérant, s'il est perdant à court terme, est gagnant à long terme. C'est donc une stratégie habile que l'on nommerait dans le monde économique d'aujourd'hui de win-win, stratégie gagnant-gagnant. Non seulement le gérant avisé gère, mais il sait anticiper et adapter sa stratégie. Je dirais qu'il est capable de changer. C'est pour cela que Jésus fait son éloge. Jésus fait l'éloge de cet homme qui prépare sa reconversion. Mais il prend cet exemple pour nous provoquer et non pour valoriser la magouille. Ils sont forts et habiles entre eux, les hommes de ce temps, avons-nous entendu dans la lecture. Et nous ? Agissons-nous aussi dans le présent selon l'avenir du royaume qui s'annonce, à savoir le retour du Christ et le jugement ? Gardons cet avertissement à l'esprit pour bien comprendre le sens de l'histoire de cet intendant. Malhonnête, voleur et avide, mais avisé, tel que nous la raconte Jésus. Il n'a certainement pas l'intention de nous enseigner comment tricher avec notre patron, ni avec les services fiscaux. Là, il y en a plusieurs qui sont très intelligents. Alors, que veut-il nous enseigner en nous présentant ce filou ? Eh bien, il nous dit... Si l'intendant malhonnête, fraudeur, était prudent dans sa sphère d'existence mauvaise et temporelle, combien plus les chrétiens devraient-ils être prudents dans leur sphère juste et éternelle ? En même temps, Dieu connaît la pâte humaine mieux que chacun de nous. Et il sait que chacun de nous est un gérant de ce qu'il a reçu. Il sait les dons qu'il a faits à chacun de nous et à l'Église. S'il y a beaucoup de justifiés par la seule grâce, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alors ne fustigeons pas le gérant dit malhonnête pour faire diversion sur nos propres misères. Que chacun s'examine lui-même. Ne nous moquons pas de Dieu, mais prenons conscience des enjeux et corrigeons nos comportements par rapport à l'argent pendant qu'il en est encore temps. Si Dieu déteste le péché, il aime sans condition le pécheur. Et je ne serais pas là si ce n'était pas vrai. Et il se réjouit lorsqu'un pécheur se repent. La Bible regorge d'exemples à ce sujet. Nous en avions évoqué ensemble quelques-uns. Abraham, le lâche, qui ne protège pas sa femme devant Pharaon. Il dit, c'est ma sœur, tu peux y aller. Pourtant, il est le père des croyants. Jacob, qui blouse son frère, n'est pas un exemple de probité. Pourtant, c'est par lui qu'Israël aura un avenir. David a du sang sur les mains. C'est pas très beau ce qu'il a fait avec le mari de Bathsheba. Pourtant, il est dans la généalogie de Jésus, tout comme Rahab, la prostituée, Zachée, le collabo des Romains, qui s'est enrichi sur le dos de ses frères, s'entend dire « Le salut est entré dans ta maison », de la bouche même de Jésus. Le bon larron à Golgotha est sauvé parce qu'il pose un regard juste quelques minutes avant de mourir. Mes amis, oui, Dieu est bon, il fait grâce. Mais il aimerait voir un peu d'intelligence et de créativité chez les chrétiens. Il aimerait qu'ils comprennent, comme le gestionnaire avisé, que face au jugement dernier, il faudra rendre des comptes et que nous sommes cuits si nous ne réagissons pas, si nous ne nous faisons pas des amis avec le mammon et son argent injuste. Comment se faire des amis ? Eh bien, Ésaïe et Luc nous le disent, et vous aviez choisi ce texte comme base pour l'ensemble des prédiques. Apportez la bonne nouvelle aux pauvres. Proclamez la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles. Libérez les opprimés. Annoncez l'année de grâce du Seigneur. Nous lisons dans Luc 15. Je vous le déclare. C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Autre très bonne nouvelle dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 19 et 20, nous lisons « Mes frères, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait, le sauvera de la mort et obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. Investissons donc pour l'éternité, soyons ministres des pauvres, mais surtout, faisons notre boulot de disciples et amassons-nous des trésors dans les cieux en évangélisant. Souvenons-nous que nous ne sommes pas des propriétaires absolus de ce que nous possédons. Nous n'en sommes que les gérants. Rends-moi les comptes de ta gestion, me demande le maître. Nous demandera Jésus au moment du jugement, peut-être. Ce texte nous montre qu'être chrétien, c'est être un habitant et un militant de ce monde. Non pas un militant d'un ailleurs, mais bien un militant de l'ici et maintenant, it et nunc, qui s'inscrit dans son époque, aussi éloignée de Dieu soit-elle, qui s'inscrit dans son peuple, dans sa société, aussi éloignée de Dieu soit-elle, qui milite chaque jour dans le sens du respect de l'autre pour plus de solidarité et de justice. Alors, occupons le terrain. Soyons créatifs, audacieux, habiles, avisés et rusés pour la bonne cause. Culpabilisons moins et agissons plus. Bref, vivons de la grâce et communiquons-la, transmettons-la. Nous servir de l'argent, oui, mais ne jamais servir l'argent. Il est tellement dangereux et facile d'en devenir l'esclave. Et pour cela, il faut être malin. C'est le conseil que nous donne Jésus. Malin, rusé, futé, débrouillard, astucieux, habile. Fils de lumière, certes, mais pas naïf. Et par une prise de recul, nourri de notre vie de foi, à travers la prière, la lecture des Écritures et le partage, nous pouvons et devons re-questionner sans cesse l'éthique du monde dans lequel nous vivons. Acteur, pas spectateur. Si je me situe vis-à-vis de l'argent, non en propriétaire, mais en gérant honnête, je participe à l'acte créateur de Dieu. Je peux dès maintenant entrer dans les demeures éternelles, rien à payer, simplement permettre aux autres d'exister et de vivre en relation les uns avec les autres. En tant que gestionnaire des biens de Dieu, notre conduite dans la vie terrestre d'aujourd'hui nous projette dans une réalité éternelle. Nos actions, grandes ou petites, ont toujours une portée qui les dépasse et doivent viser le bien de l'autre. Si nous considérons que notre éternité a déjà commencé dans nos actions, même les plus petites, le mammon, à savoir l'argent, demeure un outil que nous utiliserons pour le bien de la communauté. Nous sommes des gestionnaires des biens, à la fois terrestres et éternels, dans une perspective qui détermine notre avenir. En d'autres termes, Dieu travaille avec nous. Chez Luc, l'accent est mis sur ce qui est à vivre maintenant. Le royaume n'est pas pour demain, il commence aujourd'hui. C'est dès à présent qu'il faut s'y mettre. Comme le gérant avisé, mes amis, anticipons. Luc ne cherche pas d'abord à dire ce qui est bien ou mal par rapport à l'argent, mais il nous enseigne en priorité à mettre notre confiance en Dieu. C'est elle qui va guider nos choix. Il s'agit d'être libre par rapport à ce que l'on possède, de mettre ce que l'on a au service de la construction de l'Église et du royaume, qui rend le monde plus humain, plus fraternel, plus relationnel. Dès maintenant, là, tout de suite. Alors je termine par une petite histoire qui va illustrer, résumer et puis soulager nos cerveaux. Dans un pays lointain, pas chez nous évidemment, une dame avait de grands biens. Elle habitait une somptueuse demeure avec des dépendances magnifiques. Elle avait aussi une servante qui, elle, habitait dans une modeste cabane au fond du jardin de sa maîtresse. Le dimanche, elle avait congé. Elle allait à l'église. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle en donnait une bonne partie chaque semaine pour les nécessiteux. Sa maîtresse, elle, avec beaucoup trop de responsabilités et d'activités pour trouver le temps d'aller à l'église, et avec les nombreuses charges qu'elle avait, elle devait faire attention à ses dépenses. Un jour, la servante mourut et se retrouva au paradis, devant le responsable des logis, qui la conduisit dans sa nouvelle demeure pour l'éternité. Modeste, elle n'avait pas beaucoup d'attentes. Mais quelle surprise lorsqu'elle vit la somptueuse demeure qui lui était réservée. Elle croyait qu'il y avait erreur. Quelque temps plus tard, c'est sa maîtresse qui mourut. Elle se retrouva à son tour au paradis devant le responsable des logis qui la conduisit dans sa nouvelle demeure pour l'éternité. Ils passèrent devant la demeure de la servante. Et la maîtresse se mit à frétiller en se disant que si sa servante était pareillement logée, elle allait recevoir une demeure digne de son rang. Mais quelle surprise lorsqu'elle vit la modeste cabane qui lui était réservée. Elle crut qu'il y avait erreur. Le responsable des logis lui répondit « Non, madame, il n'y a pas d'erreur. Mais voyez-vous, nous avons construit avec les matériaux que vous nous avez envoyés. » Frères et sœurs, nous sommes les gestionnaires du royaume de Dieu. Soyons avisés, investissons pour l'éternité. Amen.
Pour faire suite à cet instant méditatif, mais aussi aux paroles que nous avons reçues, nous vous proposons de continuer avec un temps de prière communautaire. Chacun est invité à prier et est libre de le faire dans son cœur ou à haute voix. En réfléchissant à cette idée de gérance, nous sommes tous gérants dans cette perspective du royaume, d'être habile, sans être malhonnête, c'est pas évident de trouver ses limites. Et en pensant peut-être, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de nos communautés, en pensant à cette prochaine rentrée qui arrive et aux nouveaux défis qui l'accompagnent, je vous invite à prier.
Sois-tu, ô Dieu, parce que tu n'as pas voulu gérer tout seul depuis là-haut le ciel, mais tu as voulu que chacun de nous gère sa part. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu que nous partagions ta puissance. Donne-nous de gérer selon ton plan.
Seigneur, c'est vrai que ta parole nous dit que tu as préparé des œuvres bonnes afin que nous les accomplissions. Et merci pour cette perspective, merci pour cette collaboration à laquelle tu nous appelles en préparant ces œuvres bonnes. Et aide-moi à les distinguer pour que nous les accomplissions par l'Esprit.
Seigneur, que tu nous conduises dans ce rôle, effectivement, que tu nous donnes, que tu nous aides d'être acteurs et non spectateurs. Permets-nous de ressentir l'urgence, de ressentir les impératifs de ton royaume. Et que tu conduises nos paroisses respectives dans ces temps, certains plus difficiles que d'autres, et dans cette rentrée qui arrive. Amen. On va continuer ce culte et je reprends, avant de passer à la Sainte Cène, dans Matthieu 26, pour préparer justement cette Sainte Cène, ce repas que Jésus avait eu avec ses disciples. Il est dit ceci: le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander: où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Il leur répondit: allez à la ville, chez un tel, et parlez-lui ainsi: le maître te fait dire, mon heure est arrivée, c'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque. C'est chez un tel. Son nom, c'est peut-être pas le plus important. C'était certainement un propriétaire juif, mais visiblement pas vraiment connu des disciples. Et pourtant, Jésus prend place à table chez lui, car une place lui a été laissée. Et nous, quelle place laissons-nous à Jésus? Mais aussi, quelle place laissons-nous aux pauvres et à l'étranger? Alors avant de continuer, je vous invite à chanter ce chant, les deux premières strophes pour l'instant, qui dit « Laisserons-nous à notre table ?» donc les strophes 1 et 2. Le Seigneur lui-même nous invite à sa table, lui qui frappe à la porte. Il nous invite à faire ses gestes en souvenir de lui.
Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis, le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Puis il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Nous prions. Je voulais tout abandonner, je voulais céder à la souffrance, je voulais choisir le chemin le plus facile, le désespoir. Toi, tu n'as jamais perdu patience. Toi, tu as supporté toute une vie et tu as souffert pour me sauver, moi aussi. Je t'apporte ma peine, mais en moi ta joie. Je t'apporte ma solitude, mais en moi ta présence. Je t'apporte mes conflits, mais en moi ta paix. Je t'apporte mes échecs. Fais germer en moi ton avenir. Amen. Alors, à notre habitude, on circule avec les paniers de pain et les paniers avec les petits gobelets de vin. Au centre, les gobelets de couleur sont du jus de raisin, autour c'est du vin, et ceux qui désirent célébrer avec la coupe, il faut simplement faire signe.
Béni sois-tu, Père, toi qui allumes dans nos obscurités ce feu qui ne s'éteint jamais. Béni sois-tu, Jésus-Christ, toi qui t'offres à nous pour que nous devenions semblables à toi. Béni sois-tu, Saint-Esprit, toi qui ouvres nos cœurs et nos lèvres à la louange. Amen.
Passons à un temps d'offrande. Donner, c'est du temps qu'on donne, c'est de l'énergie, on donne de soi, c'est de l'argent, c'est partager les charges comme il nous est recommandé. Et cette offrande permet de faire tourner ou d'aider à faire tourner notre paroisse, notre église, mais également à rejoindre le pauvre au loin comme plus proche de nous. sans pour autant nous décharger de notre responsabilité non plus. Ainsi, je vous invite à chanter la suite du chant « Laisserons-nous à notre table » les strophes 3 à 5. Voilà, si vous voulez vous lever. Merci Seigneur de cet argent que nous pouvons te donner, mettre de côté pour toi, qu'il puisse être utilisé de manière habile pour ton royaume. Et aide-nous aussi à chacun pouvoir gérer et mettre de côté pour toi, investir pour ton royaume. Amen. Alors vous pouvez reprendre place. Et on termine ce culte avec quelques annonces. Alors Maurice en nage, j'en fais juste deux avant. Le culte sera suivi d'un après-culte, un petit apéritif qui aura lieu dans le foyer, juste à côté. Donc tout le monde est cordialement invité à partager ce moment de convivialité. Et sinon, dimanche prochain, je rappelle simplement que ce sera le dernier culte de l'été, dans la série de l'été, et qu'il a lieu au CEPOM, donc pas de culte ici, mais 10 heures au CEPOM. Maurice ?
Une famille engagée, puisque ce sera son papa qui va faire la prédication dimanche prochain. Voilà quelques annonces. Vous trouverez, je me suis permis de mettre ce papillon, les églises réformées de la région mettent en route des cultes familles. On a déjà commencé l'an dernier, on continue cette année. Des petits papillons, il y a 4 cultes familles, c'est un peu particulier, on essaye de, d'innover, de faire dans un cas petit déjeuner suivi du culte, les gens restent à table, trouver un peu des nouvelles formes. Et c'est vrai que c'est assez suivi. Merci de porter ça dans vos prières et de le relayer à des familles intéressées qui auraient toute leur place là. Prochain culte, vous le trouverez, c'est Papillon à la sortie le 6 septembre. Nous en ferons 4 l'année prochaine. Autre information, j'avais évoqué un voyage à Prague à Pâques prochain qui concerne la région, mais dans la mesure où la région ne se jette pas dessus, il pourrait y avoir des places, donc n'hésitez pas à en profiter. Information le 8 octobre au CEPOM à 19h. Pratique, passer à l'évangélisation avec mon collègue Philippe Vonesch. Nous essayerons quelque chose de nouveau, recommencer à croire le 17 septembre à 19h au CEPOM. Nous informons les gens qui veulent recommencer à croire que nous sommes à leur disposition et on verra bien qui se déplace et quelles sont les attentes, mais nous voulons offrir un espace supplémentaire, peut-être à l'évangélisation, à la communication, et nous allons un petit peu voir, est-ce qu'il y a des attentes, est-ce que si l'on offre des espaces, les gens s'y prêtent. Je vous le signale pour que vous portiez cela dans la prière, car il en va du royaume, vous l'avez compris. Nous vivrons l'année qui vient plusieurs choses ensemble, puisque c'est une année importante, c'est les 40 ans du CEPOM, et nous vivrons cela de façon écuménique. Nous aurons nos célébrations habituelles, donc celle de la kermesse écuménique le 8 novembre, celle du 24 au soir, la veillée de Noël, celle de la semaine de l'unité, et j'ai déjà obtenu des coptes orthodoxes avec l'évêque qu'ils participent avec leur communauté. Nous aurons les rameaux et nous aurons la fête finale le 29 mai, avec chaque fois des célébrations. Le programme définitif vous sera communiqué, mais merci de porter ça dans la prière et de participer. Nous aurons une séance le 25 août, ouverte à tous ceux qui veulent s'engager, de préparation de ce 40e, une soirée écuménique, où nous mettons un peu en place les équipes qui feront les différentes animations. Il y aura des conférences, il y aura l'habillage de la croix avec un tricot, il y aura toutes sortes de choses. Vous êtes impliqués là-dedans. Ce que nous avons discuté avec les collègues prêtres et pasteurs, dont Roger relayera, c'est qu'une des célébrations, et notamment la grosse fête finale, soit faite avec la participation des jeunes de la communauté évangélique pour animer la louange et pour que ça pulse. Hein ? Merci les jeunes, vous m'avez entendu. Donc voilà, vous pouvez déjà vous y mettre. Et puis, évidemment, on mettra aussi en évidence les nouvelles générations, donc les jeunes du cathès. Bienvenue, j'en vois certains ici, bronzés, prêts à reprendre le cathès des ados, des enfants, etc. Mais ce sera en début septembre. Donc, on essaiera de faire une célébration où on mettra en avant, plus qu'une liturgie lourde et des prêtres et pasteurs, des jeunes qui savent et qui vivent Dieu et qui le transmettent. Voilà un petit peu l'idée. Nous sommes encore dans les concertations, les séances, etc. Mais merci de porter tout ça dans la prière. Il y a eu 40 ans de fidélité de Dieu dans cet écuménisme. Je crois que c'est un projet qu'il a vraiment béni. Et devant les 40 prochaines années, c'est nous qui faisons la transition. Alors, on compte sur chacun d'entre vous. J'ai été un peu long. Merci.
S'il n'y a pas d'autres annonces, je te laisse quand même revenir.
Ah oui.
Ouais.
Alors dans ce cas, on se lève tous, si vous voulez, pour la bénédiction finale. Au seuil de cette rentrée, que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit nous renouvelle pour son service et pour le service de tous. Qu'il nous donne de nous engager chaque jour avec notre cœur et nos biens dans la joie du Christ ressuscité. Amen.